Vous écoutez, on lit pour vous.
L'entreprise qui chasse le brouillard. Un texte de Simon Boucher, paru le 19 janvier 2026 dans la presse. Une entreprise québécoise propose une solution aux sécheresses de plus en plus fréquentes, récolter l'eau qui compose le brouillard et les nuages. À l'aide de larges filets, de radars et de l'intelligence artificielle, l'entreprise espère contrer les effets des changements climatiques en offrant une source d'eau supplémentaire et écologique. Après des projets aux Émirats arabes unis, au Pérou et au Mexique, l'entreprise québécoise Permalution étudie l'installation de collecteurs de brouillard en Gaspésie. Cette technologie, qui semble relever de la science-fiction, pourrait permettre d'approvisionner des communautés rurales en eau et de réduire l'exploitation des nappes phréatiques par les industries agricoles et minières, plaident ses fondateurs. La collecte de l'eau à partir du brouillard et des nuages est aussi ancienne que la collecte d'eau de pluie, mais c'est beaucoup moins connu. On a pris une pratique ancestrale et on a innové, explique Tatiana Estevez, fondatrice de Permalution. Si la récolte est effectuée à certains endroits précis, la collecte des gouttelettes d'eau qui composent le brouillard permet de recueillir jusqu'à 3 fois plus d'eau que la récolte de l'eau de pluie, poursuit Mme Estevez. La Sherbrookeoise ajoute qu'à la différence de la pluie, si on ne collecte pas le brouillard ou les nuages, ça retourne dans l'atmosphère et c'est perdu. Au Mexique, l'entreprise dit avoir aidé à préserver 2 variétés d'orchidées menacées d'extinction par des incendies de forêt et une cueillette intensive. Pour reproduire les conditions naturelles dans lesquelles poussent ces fleurs, les autorités gouvernementales ont construit une serre alimentée en eau par les collecteurs de brouillard dans un secteur isolé de la réserve Sierra de San Juan. Dans cette serre, Edgar Rosalio Carrillo Carrillo, un horticulteur, a cultivé ces espèces fragiles qui ont ensuite été réintroduites dans la réserve. Alors que ce projet a exploité le brouillard et les nuages de hautes altitudes au Canada, ce sont les brouillards côtiers qui présentent le plus grand potentiel. L'endroit avec le plus de brouillard et de nuages qu'on peut aller chercher dans le monde, c'est la côte atlantique du Canada. Comment ça marche? Pour concevoir son dispositif, Mme Estevez s'est inspirée d'arbres qui s'irriguent avec du brouillard, les séquoias et les conifères. Elle ajoute qu'habituellement, ces arbres introduisent naturellement le brouillard en tant que source d'eau, donc on a fait un peu leur job, quand la végétation diminue. La technologie est divisée en 3 composantes, le collecteur de brouillard, le modèle prédictif et les radars d'eau. Les collecteurs sont de grandes membranes avec des propriétés hydrophiles qui attrapent les gouttelettes d'eau suspendues dans l'air. Lorsque plusieurs gouttelettes s'accumulent, elles tombent, grâce à la gravité, dans une citerne. Agissant comme d'énormes filets, les collecteurs n'ont pas besoin d'être alimentés en électricité, ce qui leur permet d'évoluer en milieu isolé. Une membrane mesure normalement 20 mètres carrés et peut récolter de 150 à 400 litres d'eau par jour. Il peut y en avoir des centaines au même endroit. C'est ce qu'on appelle des fermes de brouillard. Concrètement, les unités de permalution peuvent collecter jusqu'à 750 à 2000 litres d'eau par jour par unité de 100 mètres carrés, selon les conditions et l'emplacement. L'entreprise affirme atteindre l'équivalent d'un camion d'eau par jour avec un module et demi dans certains endroits particulièrement propices à la collecte de brouillard dans le monde. La sauce secrète de Permalution, c'est qu'on a la base de données la plus unique au monde pour comprendre le brouillard et les nuages en tant que source d'eau, dit Mme Estevez. L'entreprise se sert ensuite de ces données et d'un modèle prédictif propulsé par l'intelligence artificielle pour choisir les emplacements idéaux pour y installer les collecteurs. Finalement, les radars d'eau sont un ensemble de senseurs météorologiques qui vont mesurer les nuages et le brouillard indiquant le rendement estimé de la qualité d'eau. L'entreprise dit avoir identifié des « golden spots » dans plusieurs régions du monde où la collecte d'eau à partir des nuages et du brouillard est prévisible, prouvée, efficace et respectueuse de l'environnement. Une technologie au potentiel limité. Jason Robert Tavares, professeur titulaire au département de génie chimique à Polytechnique Montréal et chercheur en capture d'eau atmosphérique, souligne que le principal défi de cette technologie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on a régulièrement et systématiquement du brouillard. Or, c'est évidemment essentiel pour qu'un tel dispositif fonctionne. C'est une eau de compensation, comme on arrondit les fins de mois avec une deuxième job. On peut arrondir les fins de mois en eau avec cette technologie. Tu vas en récolter de l'eau, pas énormément, mais assez pour desservir les besoins d'un petit village, explique-t-il en entrevue. M. Tavares ne voit pas l'intérêt d'installer des collecteurs au Québec, simplement parce qu'on a déjà un accès assez important à l'eau fraîche. Il soulève aussi le problème que représente le froid québécois qui gèle les gouttelettes et empêche la récolte d'eau. Sans oublier le phénomène « pas dans ma cour », comme la quantité d'eau récoltée va être proportionnelle à la surface des filets, il faut des filets énormes et les Québécois pourraient être réticents à les voir apparaître sur leur territoire. C'était « L'entreprise qui chasse le brouillard », un texte de Simon Boucher, paru le 19 janvier 2026 dans La Presse.
Souveraineté malmenée, un texte de Jean-François Nadeau, publié le 12 janvier 2026 dans Le Devoir. Paix, santé, prospérité, les vœux habituels de la saison. Ne serait-ce pas formidable si des mots pareils avaient un jour le pouvoir d'engendrer les mondes apaisés qu'ils essaient de nommer. À l'heure où le soleil décline sur le monde entier, l'ombre du doute face à l'avenir s'étire de plus en plus. Comment se pencher sereinement sur l'abîme qui s'ouvre et contempler sans frémir le spectacle laissé par nos abandons et nos reculs? En 2025, Donald Trump inaugurait l'année en renommant d'un trait de plume le golfe du Mexique. La planète avait rigolé. 12 mois ont passé, le même homme proclame de sa voix sinistre que le continent entier relève de sa chasse gardée. Sommes-nous à la veille de connaître le côté sanglant consécutif à nos aveuglements? Personne en tout cas ne songe plus à rire. Qu'arrivera-t-il? Où sommes-nous rendus? Pourquoi faut-il que certains, à l'évidence durs d'oreille, décident un jour de cesser d'écouter ce qu'il leur reste de bon sens? On se croirait, par moments, quelque part entre l'asile et l'abattoir. L'air est empuanti par les fumées de la guerre. Une révolution antidémocratique s'opère. Les professeurs de haine invitent partout au repli sur soi. Difficile de le nier. L'histoire de la violence humaine fait un bond en avant. Nous avons le nez collé sur une immense catastrophe en cours. Le président Trump, roi autoproclamé des masses populaires, adepte de l'arbitraire suprémaciste indifférent aux règles démocratiques, machiste multipliant les clins d'œil au discours raciste, a su rallier une masse de partisans bien au-delà de ses frontières. Certains ont beau affirmer aujourd'hui pour la galerie n'avoir aucune sympathie pour ce personnage brutal et grotesque, leurs idées sont dans les faits alignées toute l'année sur les siennes. Ils ont beau clamer que Trump est un bouffon, ils n'en approuvent pas moins ses actions sur le fond. Comme lui, ils se soucient à peine de justice sociale, de culture, d'éducation, d'infrastructures, d'écologie, de transport et d'habitation, sinon à travers le prisme étroit de fantasmes identitaires. Parce que Trump et ses sbires parlent sans cesse de frontières, ses partisans ignorent volontiers qu'il s'emploie surtout à bâtir un empire qui, lui, n'en a que faire. En agitant des hochets nationalistes, le président potentat dresse d'abord la table à un enrichissement privé sans précédent. L'impérialisme primaire est redevenu à cette fin un outil bien aimé. Le voici manié de nouveau de la façon la plus décomplexée, au mépris des peuples eux-mêmes, au nom d'un espace vital. Trump affirme sans gêne que les sommes tirées du pétrole vénézuélien seront entièrement contrôlées par lui. Il menace à nouveau le Groenland, Cuba, la Colombie, l'Iran, le Mexique, le Canada. Sommes-nous si loin de ce temps où le roi des Belges affirmait que le Congo était sa propriété privée? Le président américain se présente en figure royale, au bras d'une reine de beauté figée. Le doré badigeonné partout autour de lui se veut une allégorie de sa puissance. C'est sous les traits d'un roi grossier postmoderne qu'il se projette sur ses réseaux sociaux, jusqu'à s'imaginer en octobre dernier, aux commandes d'un avion de chasse virtuel, larguant à sa guise des tonnes de merde sur ceux qui osent défier son autorité. Abrité derrière le mot « terroriste », cet arriviste hors catégorie stigmatise n'importe qui selon ses envies pour son profit. En définitive, tout chez lui apparaît au service d'un hédonisme superficiel, clinquant, aux allures de faux châteaux à la Mar-a-Lago. À mesure qu'un nouvel impérialisme s'organise, avec le Washington Trumpiste comme centre nerveux, l'imposture du nationalisme promu par les extrêmes droites du monde entier se révèle au grand jour. Sous les oripeaux du conservatisme et d'une souveraineté de façade, la nouvelle internationale de droite dessine en réalité un cadre impérial unifié où le capital est couronné comme jamais. Son projet ne restaure pas l'autonomie des nations. Il les subordonne à un ordre entièrement au service de ceux qui font main basse sur les richesses. Dans cet ordre nouveau, où le sens même des mots se voit sans cesse inversé, les petites nations n'existent plus que comme des organismes promis à finir dans des systèmes digestifs de grands carnivores. Nous sommes loin du printemps des peuples et des soulèvements nationaux du début du XIXe siècle. Le principe du droit des peuples à l'autodétermination s'est rarement trouvé avec autant de plomb dans l'aile depuis son affirmation. Notre actualité s'assimile davantage à une nouvelle phase de découpage du monde, comparable à celle des entreprises coloniales du XIXe siècle, lorsque les frontières se traçaient à la règle, sans égard au peuple. Le nationalisme de droite, désormais entonné partout avec Donald Trump en soliste, n'est rien d'autre que le masque contemporain de vieilles visées expansionnistes recyclées dans le lexique tragique de notre époque. Ce nationalisme-là ne s'oppose pas à l'Empire, il en est la musique d'accompagnement, l'orchestre complaisant qui joue gaiement sa partition sur un bateau qui sombre, tout en prétendant que la mer est belle. C'est au son de la mélodie de cette imposture planétaire que se range avec un zèle variable les Le Pen, Milley, Orban, Farage, Meloni et tutti quanti. Tous claironnent la souveraineté à grand renfort de mots creux. Or, la souveraineté n'est plus qu'un signifiant vide dès lors que l'empereur s'autorise à la bafouer à sa guise. Ceux qui ne font plus que se gargariser de mots au mépris des réalités consentent dans les faits à servir de tapis sur lesquels les puissances d'argent viennent s'essuyer les pieds à leur guise. Lancée comme elle l'est, l'année nouvelle promet plus d'autoritarisme, de dérégulation, de privatisation et d'endettement forcé, tandis que tous les Mark Carney et les François Legault du monde nous parlent d'opportunités d'affaires du côté des armées. Chausser des bottes militaires n'est pas une opportunité, c'est faire un pas de plus vers la guerre. C'était « Souveraineté malmenée », un texte de Jean-François Nadeau, publié le 12 janvier 2026 dans Le Devoir.
Des artistes visuels font une demande d'action collective contre Meta. Un texte de Jean Siag, paru le 15 octobre 2025 dans La Presse. L'artiste visuelle québécoise Chloé Sabourin est à la tête d'une demande d'action collective contre Meta et ses filiales Facebook, Instagram et WhatsApp. Elle allègue que le repiquage d'images par la multinationale américaine pour nourrir ses modèles d'intelligence artificielle contrevient à la loi sur le droit d'auteur canadienne. Ses œuvres « Souvenirs au lac Memphrémagogue »,« Deeper View » et « All the Fields », toutes protégées par la loi sur le droit d'auteur, ont été exploitées par Meta sans son consentement et sans rémunération. En se servant des œuvres canadiennes et en les reproduisant sans autorisation pour alimenter leur modèle, les défendeurs ont violé les droits des artistes. Dans les faits, ils ont imité leurs créations sans les rétribuer, peut-on lire dans la demande d'action collective déposée au Palais de justice de Montréal la semaine dernière. Meta possède des centaines de milliards d'images et des dizaines de milliards de vidéos publiées sur ses plateformes Facebook et Instagram. L'exploitation de ces contenus aurait notamment permis à Meta de créer des produits comme les All Stickers et les All Assistant, intégrés à ces différentes plateformes. Mais les poursuivants allèguent que la multinationale n'a jamais obtenu l'autorisation des utilisateurs pour se servir de ces contenus. Les stickers sont des images générées grâce à des requêtes texte pour créer des avatars ou pour exprimer des émotions. Les artistes visuels canadiens créent des œuvres qui sont protégées par la loi sur le droit d'auteur, lit-on dans la demande d'action collective. Le déploiement d'images générées par l'intelligence artificielle menace maintenant de supplanter les œuvres artistiques réelles tout en compromettant la survie des créateurs. Chloé Sabourin, une artiste visuelle de 32 ans, qui est également diplômée en droit, soutient que même si Meta affirme publiquement qu'elle utilise les données publiques de Facebook et Instagram pour entraîner ses modèles d'IA, la multinationale doit se conformer au droit canadien qui exige que l'auteur donne son autorisation à la reproduction de son travail. Les artistes visuels engagés dans la demande d'action collective, peintres, illustrateurs, photographes, sculpteurs, etc., allèguent des pertes financières depuis la mise en place des produits de Meta générés par l'IA en 2023, mais aussi des dommages moraux ainsi qu'une usurpation de la propriété intellectuelle liée aux œuvres qui ont été reproduites. Au mois de mars 2025, l'auteur de la saga Les Chevaliers d'Émeraude, Anne Robillard, avait fait une demande d'action collective similaire contre Meta, au nom des auteurs québécois. Elle réclamait des dommages-intérêts de 20 000 $ par œuvre usurpée. Quelques mois plus tard, en septembre 2025, Madame Robillard déposait une seconde demande d'action collective, cette fois contre OpenAI et son principal actionnaire Microsoft. Elle dénonçait le téléchargement de copies illicites d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Dans sa requête, Anne Robillard reprochait à OpenAI de recourir à une base de données provenant d'une bibliothèque fantôme ou clandestine qui repique les œuvres complètes d'auteurs à leur insu. Tous les artistes visuels québécois concernés par cette demande d'action collective peuvent communiquer avec le cabinet d'avocats Twin Lisbeth. C'était « Des artistes visuels font une demande d'action collective contre Meta », un texte de Jean Siag, paru le 15 octobre 2025 dans La Presse.
Des jeunes en début de carrière choisissent le présentiel, un texte de Noam Schreiber du New York Times, paru le 2 décembre 2025 dans La Presse. Bien des jeunes ont protesté quand de grands employeurs ont requis le retour en présentiel cette année. Les sondages montrent qu'ils sont plus réticents, en moyenne, que leurs collègues plus âgés à retourner au bureau à temps complet. En réalité, le portrait est plus nuancé. Selon Gallup, les jeunes sont aussi les moins intéressés par le télétravail temps complet. De nouvelles recherches expliquent pourquoi. Une équipe d'économistes de la Réserve fédérale de New York, de l'Université de Virginie et de l'Université Harvard affirme que les jeunes employés sont pénalisés par le télétravail car ils ont moins de formation et moins de possibilités d'avancement. Selon l'étude, le télétravail est même un facteur de chômage chez les jeunes. Les jeunes, constatent les chercheurs, semblent avoir compris cela, car ils passent plus de temps au bureau que leurs collègues plus âgés. Ainsi, Aerlis Leblanc a poussé un soupir de soulagement quand son employeur, une société de logiciels du Nebraska, est passé en virtuel au début de la pandémie. Ayant un TDAH, elle trouvait plus facile de se concentrer dans le calme de son salon. Après 3 ans, Madame Leblanc, analyste commerciale en informatique, a commencé à s'ennuyer du bureau. Elle occupait un poste plus collaboratif et ne pouvait pas deviner s'il était opportun ou pas d'interrompre un collègue pour lui poser une question. L'aspect social du travail lui manquait, et elle s'inquiétait de ne pas être assez remarquée par ses supérieurs. Je sentais, dit-elle, qu'il y avait des échanges professionnels au bureau que je ratais parce que je n'étais pas là. Dès 2023, avant même que ce soit requis, elle s'est rendue au bureau plusieurs jours par semaine. Dans un questionnaire du New York Times, de nombreux lecteurs dans la vingtaine ayant pu travailler à domicile depuis 2020 ont indiqué toujours préférer cette formule. Mais d'autres ont indiqué qu'ils cherchent à passer plus de temps au bureau ces dernières années pour contrer leur isolement et obtenir plus de mentorat et de rétroaction afin d'améliorer leurs chances de promotion. Je voulais plus d'occasions d'apprendre et de poser des questions, explique Kenneth Sullivan, 30 ans, ingénieur civil de Seattle, spécialisé dans la conception et l'inspection de ponts. Il a passé de 2021 à 2023 principalement en télétravail dans la fonction publique avant d'être recruté par une société d'ingénierie exigeant plus de travail en présentiel. Le télétravail a un coût. Ses employés estiment que le télétravail a un coût et l'étude des économistes, publiée d'abord en 2023 et récemment mise à jour, leur donne raison. Elle révèle que les ingénieurs logiciels d'une grande société de commerce en ligne reçoivent 20% plus de commentaires sur leur travail en étant sur place avec leurs collègues et que cette rétroaction profite de manière disproportionnée aux jeunes et aux nouveaux employés. Selon l'étude, ces jeunes ingénieurs posent plus de questions complémentaires au bureau en présence des collègues. De plus, et c'est contre-intuitif, bon nombre de ces échanges se passent en ligne, ce qui montre que le présentiel favorise même la communication numérique. C'est ce que croit Madame Leblanc. Elle se dit plus à l'aise de contacter ses collègues, même sur Teams, après avoir travaillé avec eux en personne. Avant, c'était pour moi des gens intimidants à qui j'avais peur d'écrire sur Teams. Plus maintenant. Ryan, par exemple, le gestionnaire de compte de notre plus gros client, aime le heavy metal et les jeux de rôle. On se connaît. Je peux aller le voir et lui poser une question. Sans nier que le télétravail peut accroître la productivité, une réalité amplement documentée, l'étude souligne que ce sont les travailleurs expérimentés qui en profitent le plus. Elle montre aussi que la qualité du travail peut souffrir du télétravail, surtout celui des jeunes employés. Ainsi, les jeunes ingénieurs éparpillés en télétravail ont mis des années à atteindre le niveau de collègues du même âge travaillant ensemble en présentiel. Selon Emma Harrington, co-auteure de l'étude, le manque de mentorat et de formation semble aussi dissuader les jeunes des équipes dispersées de quitter leur poste pour des emplois plus intéressants ailleurs. Cela pourrait même nuire à leur capacité d'assumer plus de responsabilités dans l'entreprise, estime-t-elle, bien que l'étude n'ait pas mesuré cette question. Admettons qu'on finit par devenir un bon ingénieur logiciel. Mais réussit-on un jour à être un bon gestionnaire si toutes ces interactions se font en virtuel? Les jeunes travailleurs semblent prendre acte de cela. L'étude montre que, tant dans l'entreprise qui a été étudiée que parmi l'école blanc à l'échelle nationale, les jeunes ont passé plus de temps au bureau que leurs aînés entre 2022 et 2024. Cette tendance se vérifie, qu'ils aient ou non des enfants. Facteur indirect de chômage chez les jeunes. La mise à jour publiée récemment révèle un autre coût du télétravail. Plus de chômage chez les jeunes. L'augmentation du chômage chez les jeunes diplômés depuis la fin de la pandémie s'explique aux deux tiers par le désintérêt des employeurs pour les jeunes quand ils pourvoient des postes à distance ou hybrides, ont calculé les auteurs. Peut-être les entreprises estiment-elles ne pas pouvoir les former adéquatement et préfèrent-elles embaucher des personnes plus âgées, suppose Mme Harrington. Quand J.P. Morgan a décrété le retour en présentiel cette année, le PDG Jamie Dimon a évoqué cette situation. La jeune génération souffre de cela. Elle est laissée pour compte, a-t-il déclaré. Selon un sondage récent par la société immobilière Jones Lang LaSalle, plus de la moitié des entreprises du classement Fortune 100 ont rappelé au bureau leur col blanc 5 jours par semaine, contre 5 % en 2023. Forrest Hall, un analyste de données récemment promu chef d'équipe dans une entreprise de l'Utah, a vu ce problème chez un proche. Âgé de 24 ans, M. Hall a brièvement travaillé en présentiel chez son employeur actuel durant ses études en 2021, puis est passé en télétravail ou en hybride pendant plus d'un an. Selon lui, avoir commencé au bureau l'a aidé à s'adapter au télétravail. « Quand j'avais des questions, c'était facile de trouver de l'aide », dit-il. À l'opposé, son cousin, qui a demandé à rester anonyme afin de protéger ses perspectives d'emploi, a rejoint l'entreprise en télétravail et a démissionné après 12 mois, en partie parce qu'il était difficile de se mettre à niveau à distance. Obtenir des réponses aux questions techniques était souvent long et frustrant, dit-il. Le présentiel ne suffit pas. Cela étant, employés et experts s'entendent, offrir aux jeunes un mentorat adéquat et des perspectives de carrière n'est pas aussi simple que les ramener en présentiel. Plusieurs jeunes employés disent avoir découvert à leur retour au bureau que leur équipe était éparpillée à différents étages, dans différents bâtiments et même dans différents fuseaux horaires. Ils notent leur frustration d'avoir à se taper les mêmes réunions en ligne après s'être mis sur leur 31 et avoir fait la navette jusqu'au bureau. Quand je vais au bureau, je m'assois à mon bureau avec mes écouteurs sur Teams, déplore Abigail Voigt, 29 ans, architecte logiciel à Minneapolis. Je n'y gagne rien. C'était « Des jeunes en début de carrière choisissent le présentiel », un texte de Noam Schreiber du New York Times, paru le 2 décembre 2025 dans la presse.